Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 17h à Jacmel en Haïti, 21h à Lomé et en temps universel, 23h à Chatou en France. Le journal est présenté par Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claudie, bonsoir à tous. À la une, c'est désormais quotidien depuis 3 jours. Ce mardi encore, 27 personnes ont été tuées par des tirs israéliens dans le sud de Gaza lors d'une distribution d'aide alimentaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque des pertes de vie inconcevables. De son côté, les États-Unis affirment que cette distribution est malgré tout une réussite. C'est un symbole de l'annexion russe. Le pont de Crimée frappé par l'Ukraine. Il avait été déjà visé à 2 reprises depuis l'invasion russe de 2022. 3 ans après, la guerre dure toujours et l'aide humanitaire pour Kiev ralentit. Le secteur de l'agriculture est particulièrement touché, vous l'entendrez. Cela fait 247 jours qu'elle a cessé de s'alimenter. Leila Souef en grève de la faim pour sauver son fils. Un britannico-égyptien détenu illégalement en Égypte depuis 2019. Sa mère demande au Royaume-Uni de tout faire pour le sortir des geôles égyptiennes. Et puis, en fin de journal, nous serons à Roland-Garros. Carlos Alcaraz n'a laissé aucune miette à l'américain Tommy Paul. Victoire 6-0, 6-1, 6-4. Le tenant du titre file en demi-finale. À Gaza, les jours passent et se ressemblent. 27 personnes ont été tuées par des tirs de l'armée israélienne ce mardi près d'un centre de distribution d'aide alimentaire. Ces 3 derniers jours, chaque distribution est endeuillée de plusieurs morts et blessés. Mais ce mardi, Washington soutient malgré tout que cette distribution était une réussite. Pierre-Olivier.
58 personnes tuées par des soldats israéliens en moins de 3 jours à proximité du même centre de distribution d'aide alimentaire. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dénonce des crimes de guerre. Selon plusieurs témoins, ce mardi matin, dès que des groupes s'approchaient du rond-point d'Al Alam où l'aide était remise dans le sud de Gaza, l'armée israélienne ouvrait le feu. Le même procédé qu'il y a quelques jours, officiellement selon l'armée, pour se protéger de suspects qui mettaient en danger la sécurité des soldats. Mais les États-Unis voient dans ces distributions une réussite, tout en concédant qu'elles pourraient être améliorées. Selon la porte-parole du département d'État, 7 millions de repas auraient été distribués jusqu'à présent, un chiffre impossible à vérifier. Ce mardi, la Maison-Blanche a nommé à la tête de la Fondation humanitaire pour Gaza, chargée de ces distributions, le pasteur Johnny Moore, un évangélique américain de droite qui a travaillé aux côtés de Donald Trump sur les questions de liberté religieuse. Jusqu'à présent, l'ONU et de nombreuses ONG refuse de travailler avec cette fondation, craignant qu'elle n'ait été créée pour servir les intérêts militaires d'Israël.
Pierre-Olivier, la Corée du Sud a un nouveau président. Large victoire pour le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung. Il l'emporte avec 49,3% des suffrages contre 41,3% pour son adversaire conservateur. Participation massive lors de ce scrutin qui intervient après 6 mois de chaos politique et la destitution de l'ex-président Yoon Suk-yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Lee Jae-myung sera officiellement investi dès la proclamation du résultat du vote par la Commission électorale nationale ce mercredi matin. Pas de solution immédiate à l'horizon. Le Kremlin écarte ce mardi tout règlement à court terme de la guerre en Ukraine. Et ce, au lendemain de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul. Des discussions qui n'ont pas débouché sur un cessez-le-feu, mais sur un nouvel échange de prisonniers. Pendant ce temps, les frappes se poursuivent. Kiev a revendiqué ce mardi une attaque contre le pont de Crimée qui relie la péninsule annexée par Moscou à la Russie. En Ukraine, 6 civils ont été tués. Et dans ce contexte, l'aide humanitaire pour Kiev s'essouffle. Il manque 150 millions d'euros dans les caisses de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un appel a donc été lancé ce lundi aux États contributeurs. Cette somme est capitale pour aider les agriculteurs ukrainiens à reprendre ou continuer leur production. D'autant plus que la période des semis commence d'ici fin juillet. On écoute Louis Samaya, le directeur adjoint du bureau de la FAO en Ukraine.
Nous apportons de l'aide principalement à des paysans qui font de l'agriculture vivrière, notamment des personnes âgées et des femmes. Et nous avons besoin de fonds en urgence pour déminer les champs et que les terres qui étaient près du front puissent être exploitées à nouveau. Dans ces zones-là, des agriculteurs ont aussi besoin de pouvoir stocker leurs récoltes. Les fonds doivent par ailleurs permettre de donner directement de l'argent à des éleveurs de volailles milliers de porcs pour qu'ils puissent acheter à manger pour leurs animaux, acheter des outils, des engrais ou encore des semences.
Herramientas, fertilizantes, semillas, son todas estas necesidades muy urgentes.
Tout ça, c'est urgent. Et l'agriculture n'attend pas. Si les petits paysans ne reçoivent pas cette aide à temps, ils ne pourront pas continuer à produire et n'auront pas d'autre choix que de partir. Et donc, ils se retrouveront dépendants d'une aide humanitaire qui se fait de plus en plus rare.
Le numéro 2 du bureau de la FAO en Ukraine, Louis Amaya, joint par Justine Fontaine du service économie d'RFI. À noter que la Banque mondiale estime que la guerre a provoqué plus de 80 milliards de dollars de dégâts pour l'agriculture ukrainienne entre 2022 et 2024. Les Pays-Bas en pleine incertitude, le gouvernement est tombé ce mardi. Une chute provoquée par le dirigeant d'extrême droite, Geert Wilders. Il s'est retiré d'une coalition fragile sur fond de désaccord sur l'immigration. Cela ouvre donc la voie à de nouvelles élections. Les Pays-Bas qui accueilleront le 24 et 25 juin le prochain sommet de l'OTAN. Et justement, Donald Trump se rendra à ce sommet, annonce ce mardi de sa porte-parole. Au menu des discussions, la défense, le président américain n'a de cesse de demander aux membres de l'Alliance d'augmenter de manière très importante leurs dépenses militaires. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a d'ores et déjà assuré que lors de ce sommet, les 32 pays membres de l'OTAN annonceraient une hausse ambitieuse de leur budget de défense. Cela fait 247 jours qu'elle est en grève de la faim. Leïla Souef est prête à tout pour sauver son fils. Et députés et associations appellent le gouvernement britannique à faire libérer immédiatement Alaa Abdel Fattah, un britannico-égyptien détenu illégalement en Égypte depuis 2019. Tant que Downing Street n'aura pas fait preuve de fermeté vis-à-vis du Caire, Leïla Souef, qui est hospitalisée, refusera tout traitement. Elle s'est exprimée ce mardi matin au micro de la BBC. Correspondance d'Emeline Vin à Londres.
Après 8 mois de grève de la faim sous perfusion, Leïla Souef est toujours consciente, un miracle selon sa famille, mais en danger immédiat de mort, d'une voix rauque. Épuisée, elle se dit prête à mourir dans cette interview à la BBC.
C'est quelque chose que je ne veux vraiment pas, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour qu'Allah soit libéré et pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent reprendre une vie normale. Maintenant que j'ai pris cette décision, que j'ai décidé d'affronter le régime égyptien, je ne peux plus faire machine arrière.
Leïla Souef ne recommencera à se nourrir que quand son fils Alaa sera libéré, lui qui aurait dû quitter sa prison du Caire en septembre. Plusieurs députés britanniques relaient les appels à accélérer les tractations diplomatiques ainsi que Reporters sans frontières, représenté par Fiona O'Brien.
Le gouvernement pourrait restreindre les liens commerciaux avec l'Égypte, par exemple, ou modifier ses recommandations aux voyageurs, que les touristes britanniques sachent que si eux aussi sont arrêtés arbitrairement, ils ne bénéficieront d'aucune protection consulaire. Il y a un certain nombre de leviers à activer pour qu'Allah puisse rentrer.
La famille de Leïla Souef rappelle que sa vie en dépend. Le gouvernement lui assure faire de son mieux pour obtenir la libération d'Alaa Abdel Fattah. Emeline Varlondre, RFI.
Et on termine ce journal avec du tennis. Carlos Alcaraz avait les crocs ce soir à Roland-Garros. Victoire écrasante de l'Espagnol face à l'Américain Tommy Paul en quart de finale. On retrouve Frédéric Suto en direct de la Porte d'Auteuil. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Le prodige espagnol a complètement écœuré son adversaire.
Oui, d'habitude à cette heure-là, le central est encore plein, le public vibre, on est dans le quatrième ou cinquième set, c'est ça la session nocturne. Mais là, il a éteint les projecteurs et la résistance de Tommy Paul, Carlos Alcaraz, dans un de ses matchs dont il a le secret. 1h34 seulement, quasiment pas de déchets et un score sans appel, 6-0, 6-1. 6-4, le tenant du titre plus que jamais là pour défendre son trophée de Roland-Garros. On l'avait vu, non pas à la peine, hein, lors des tours précédents, l'Espagnol, mais lors des 3 derniers matchs, il avait abandonné un set en cours de route. Il alternait le bon et le moins bon. Là, il était vraiment en mode patron du court et de la terre battue du début à la fin. Carlos Alcaraz qui envoie un petit message à ses adversaires futurs, les Yannick Sinner et autres Novak Djokovic. Avant cela, il y aura Lorenzo Musetti en demi-finale.
Frédéric Suto en direct de Roland-Garros et chez les femmes, la Biélorusse Arina Sabalenka a battu Qin Wenzheng 6-7-6-6-3.